semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction. Dans la deuxième partie de l'émission après le flash, nous reviendrons sur les grands titres de l'actualité africaine. Notre invité a longtemps dirigé le quotidien Libération, 33 ans je crois. Je veux parler bien sûr de Serge Julie qui nous propose aujourd'hui un dictionnaire amoureux du journalisme chez Plon. Tout ça est fort logique. Bonjour Serge.
Bonjour.
Ça s'appuie sur votre vos 33 ans de
journalisme. Oui, j'ai fait de la documentation si on veut pendant 33 ans. Et finalement, je me suis mis à l'écrire.
Et on sent que c'est vraiment amoureux, hein.
Oui, donc subjectif. Alors, évidemment, j'étais confronté, c'est pour ça que j'ai dit oui à cette proposition de Jean-Claude Simoin, qui dirige la collection,
bien sûr,
qui était de faire ça. Il me l'a proposé quand j'ai quitté Libération. Finalement, j'ai mis un certain temps avant de passer à la réalisation. Mais il y a eu 350 livres qui ont été écrits sur les médias ces 30 dernières années pour contester le pouvoir des médias, discuter les abus des journalistes, tout ça, etc. Et j'avais envie depuis longtemps de répondre à ça. Et j'ai trouvé que l'occasion était formidable à travers un dictionnaire. C'était pas justement de faire un essai sur les médias, qui a été le 351e, mais qui était une grille très différente. Moi, j'ai un point de vue sur les médias. Je suis pas béat devant les médias. Je trouve qu'il y a des faces noires. Il faut les raconter. J'en raconte quelques-unes, mais en même temps, c'est le cœur de la démocratie et il y a des chefs-d'œuvre et j'ai envie de les raconter.
Alors, on va parcourir ce dictionnaire ensemble. Serge Julie, on y trouve évidemment Libération. C'est logique. Hein, une notice sur Libération et une notice sur Serge Julie intitulée Itinéraire d'un enfant gâté.
Oui, enfin c'est un film de Lelouch.
Ouais, ça dit quelque chose, effectivement.
Ouais. Il n'y a pas d'identification avec Jean-Paul Belmondo. Je trouve que le titre est très beau. Mm-hmm. Je voulais pas du tout m'inscrire parmi les grands journalistes du siècle. C'était pas l'objectif.
Parce je voulais répondre. Pas mal dans le dictionnaire, hein.
Oui, ouais. Mais je voulais répondre à une question. Pourquoi je me suis retrouvé le 30 décembre 1972, on m'a proposé de diriger Libération et un projet qui allait avec Sartre, avec bon, cette notice s'arrête au 30 décembre 72.
Ouais.
Je ne raconte pas ma carrière à Libération.
Non, ça, non, c'est tout ce qu'il y avait avant.
Pas,
en fait,
oui, voilà. Quand j'arrive, ben voilà, je ressemble à quoi. Et alors c'est un peu de l'auto-analyse, c'est un peu voilà. Je pensais que c'était indispensable. On se demande toujours d'où il parle. Voilà, ben, je voulais répondre à cette question. Alors évidemment, je sais bien que je me mets dans le dictionnaire à côté de Jaurès ou je sais pas qui.
Vous êtes en bonne compagnie,
voilà,
c'est sûr.
Ouais, je suis en bonne compagnie, effectivement, mais ça s'arrête là.
Alors nous allons parcourir le monde, comme chaque samedi matin. Serge Julie, je vous propose d'abord de partir pour Washington, pour écouter Barack Obama, définitivement fâché avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est venu dire mardi devant le Congrès tout le mal qu'il pense des négociations sur le nucléaire iranien. Écoutons le président américain. If they do agree
to it, it would... Si l'Iran accepte cet accord, ce sera beaucoup plus efficace pour contrôler son programme que toute action militaire que nous pourrions prendre ou qu'Israël pourrait prendre. Et beaucoup plus efficace que les sanctions. Le Premier ministre Netanyahou a affirmé des tas de choses, que ça allait être un très mauvais accord, que ça allait rapporter plus de 50 milliards de dollars à l'Iran, que l'Iran ne respecterait pas l'accord. Rien de tout cela ne s'est produit. Il n'est pas certain que les Iraniens puissent dire oui, mais je dois reconnaître, pour leur défense, qu'ils ont été des négociateurs sérieux. Et ils doivent tenir compte de leur propre politique chez eux. Il est plus probable que nous puissions obtenir un accord aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 mois, mais il reste encore des points importants à régler.
Sept jours dans le monde.
Direction Moscou maintenant, Serge Julie. Après l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov, dimanche, des milliers de moscovites lui ont rendu hommage. Correspondance de Véronica Dorman.
Dans une ambiance de recueillement, des dizaines de milliers de moscovites ont marché vers le pont où a été assassiné Boris Nemtsov. Malgré un froid humide, ils ont été très nombreux à venir rendre hommage à l'opposant. Beaucoup, comme l'architecte d'intérieur Elena, sont descendus dans la rue pour la première fois.
C'est la première fois que je suis sortie. En général, j'ai peur des débordements. Mais trop, c'est trop. L'assassinat de Boris Nemtsov, c'est une attaque sérieuse contre nos droits citoyens.
Pour les manifestants, l'assassinat de Nemtsov est un message de menace envoyé à l'opposition. C'est pour ne pas succomber à l'effroi qu'ils sont sortis, comme Larissa qui brandit une pancarte avec l'inscription « Je n'ai pas peur ».
Ce crime, c'est un acte d'intimidation. Il faut montrer que malgré tout, nous campons son opposition, que nous n'avons pas peur.
La mobilisation de ce dimanche a été plus importante que d'habitude, mais difficile à dire si la mort de Boris Nemtsov donnera une nouvelle impulsion à la contestation contre Poutine.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Serge July. Cet assassinat de Nemtsov fait penser à un assassinat de journaliste et il y a quelques années aussi, Anna Politkovskaya. Quel est votre regard sur ce qui se passe en ce moment à Moscou?
Je ne sais pas, d'abord, comme tout le monde, donc j'ai aucune prétention sur ce plan. Il y a un climat incontestable de haine, un climat nationaliste très fort et qui entraîne des conséquences. Là, il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Je ne sais pas laquelle est la bonne.
À qui profite le crime, hein.
Ouais. Oui, mais c'est un raisonnement toujours un peu court, hein, qui profite le crime. Mmh. Ce climat a été créé depuis longtemps en Russie. Il accompagne la politique poutinienne. Est-ce que pour autant, ça fait de Poutine l'assassin, fût-il indirect, de Nemtsov?
Ouais.
Non,
ouais.
Pas forcément. Mmh. Voilà, on peut penser que peut-être c'est des conséquences de l'Ukraine, ou en tout cas d'hyper-nationalistes qui, pour des raisons ou une autre. Donc voilà, c'est un climat évidemment détestable.
Alors dans votre dictionnaire, Serge July, il y a dictionnaire amoureux du journalisme, il y a un grand écrivain, un grand journaliste, autant de l'Union soviétique, pour le coup, Vassili Grossman. Quelle figure?
D'abord, c'est un grand écrivain du siècle, disons la fin du deuxième partie du XXe siècle. Il y a Solzhenitsyn, il y a lui, hein, quand même. Donc, ils sont deux géants dans leur domaine. Ce qui est intéressant dans le cas de Grossman, on connaît moins bien, disons, l'œuvre journalistique de Grossman. Il fait d'ailleurs Vie et Destin, raconte la bataille de Stalingrad, qu'il a vécu comme journaliste, comme correspondant de guerre. C'est un correspondant de guerre
sur place, vraiment sur place,
qui a fait au moment de l'offensive nazie. Elle commence le 22 juillet, je crois, et début août, il est sur place. Il accompagne l'armée rouge et il va l'accompagner jusqu'à Berlin, jusqu'à la prise de Berlin. Et voilà, donc il a une continuité très forte. Il a une deuxième particularité, c'est qu'il est juif. Sa mère a été tuée par la Shoah par balle en Ukraine. Il y a 1 500 000 morts, Shoah par balle. Voilà, donc c'est un personnage exceptionnel qui est devenu, ce qu'on sait moins, c'est qu'il est devenu le journaliste le plus connu d'Union soviétique. Tout simplement parce que il y a 25 millions de morts dans la population soviétique, dont les soldats et les civils. Tout le monde a de la famille qui a été victime de la guerre. Il est le correspondant de l'Étoile Rouge, qui est le journal de l'Armée Rouge, et que pendant toute cette histoire, c'est-à-dire la durée de la guerre en Union soviétique, il est là. Et c'est le plus célèbre de tous les correspondants. Tout le monde le connaît. Et c'est ce qui explique sa protection. Il n'a jamais été envoyé au goulag. Il était juif, il était devenu anti-stalinien, il était anti-communiste. Il n'a jamais été envoyé au goulag. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que chaque fois qu'on touchait un peu à Grossman, il y avait les officiers, les généraux qui étaient à Stalingrad ou d'autres corps de bataille qui venaient prendre sa défense. Ouais, ouais. C'est un héros du peuple soviétique, pas forcément de l'Union soviétique, mais en tout cas du peuple soviétique, c'était à coup sûr un héros. Donc il a été un peu intouchable. Ça n'a pas empêché qu'on a mis son livre à la trappe, aux oubliettes.
Alors, je précise, Serge July, qu'il y a quelques journalistes qui sont devenus de grands écrivains. Il faut aussi, on n'a pas le temps d'en parler ici, dire un mot, signaler, en tout cas, Gabriel Garcia Marquez,
journaliste à Bogota. Qui est un journaliste professionnel. Il a Parmi les grands récits qu'il fait, il travaille dans plusieurs quotidiens, mais dans les grands récits qu'il fait, il y en a deux qui sont mémorables, qui sont d'ailleurs en langue française, qu'on peut lire. C'est le récit d'un naufragé. Il y a eu un accident sur un destroyer colombien. En fait, il y avait du matériel électroménager. Il y a 8 morts, un rescapé. Le rescapé, il le fait parler. Garcia Marquez le fait parler. Il le fait parler d'ailleurs à la première personne. Le récit a été publié par son quotidien, puis est devenu un livre, qui est le livre best-seller d'Amérique latine, puisqu'il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, qui est le récit d'un naufragé. Et puis il a fait un deuxième récit exceptionnel, qui est sur une prise d'otage faite par les narcotrafiquants en Colombie, qui redoutaient d'être extradés dans des geôles américaines, et qui donc avait enlevé les patrons de télévision, les patrons de radio, les patrons de quotidien en Colombie. Ce qui avait, ils étaient 9 à avoir été pris en otage. Et Garcia Marquez a raconté après, 2 ans après, cette histoire, à la fois du point de vue présidentiel, du point de vue des forces de l'ordre, du point de vue des unités, du point de vue de ses journaux, du point de vue de ses familles, du point de vue des otages, qui est un récit exceptionnel que je conseille vivement. Édition Grasset.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons maintenant pour l'Ukraine pour parler de la situation dans ce pays et des victimes depuis un an environ que le conflit a commencé à Genève. Laurent Mossu.
6 000 civils et combattants ont trouvé la mort dans l'est de l'Ukraine en moins d'un an. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme qui dresse le bilan, un bilan qui fait de plus état de 15 000 blessés au bas mot et 1 million de déplacés. Les décomptes de l'ONU portent sur la période allant d'avril 2014 à ce 28 février dernier. Un certain répit avait été enregistré à la fin de l'année dernière, mais la situation s'est considérablement détériorée en janvier et février. Les zones résidentielles ont alors été placées, dit l'ONU, sous un feu intensif décoché tant par l'armée ukrainienne que les groupes pro-russes. Et jusqu'au 15 février dernier, des armes lourdes et des combattants étrangers, entendez venus de la Fédération de Russie, n'ont cessé d'être acheminés vers les zones de Donetsk et de Louhansk. Le Haut Commissariat parle de dévastation sans merci, malgré les cessez-le-feu successifs. Il dénonce par ailleurs les violations systématiques commises à l'encontre des populations tatares de Crimée.
Une semaine d'actualité, revenons maintenant sur le discours du Premier ministre israélien au Congrès, donc à Washington, mardi, Christophe Paget.
Benjamin Netanyahou a commencé par dire tout le bien qu'il pensait de Barack Obama en rappelant ce qu'il avait fait pour Israël. Mais c'était pour mieux démonter la politique du président américain envers l'Iran, particulièrement l'accord qu'il compte conclure d'ici fin mars avec Téhéran. Un très mauvais accord, nous porterons mieux sans lui, a asséné le premier ministre israélien. Il n'empêchera pas l'Iran de produire des bombes atomiques, mais au contraire marquera le début d'un compte à rebours avant un potentiel cauchemar nucléaire. L'Iran est une menace pour la paix dans le monde entier. Plus que les parlementaires républicains qui lui étaient acquis, ce sont les démocrates que Benjamin Netanyahou voulait convaincre. Cela n'a pas forcément été le cas. Plusieurs dizaines d'entre eux ont boycotté son intervention. D'autres ont ostensiblement gardé les bras croisés pendant son discours. Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre, a elle montré son agacement, secouant la tête et levant les yeux au ciel alors que les républicains multipliaient les standing ovations. Barack Obama, qui n'était pas présent et a exclu de rencontrer le premier ministre israélien pendant sa visite, a estimé qu'il n'avait présenté aucune alternative viable au projet d'accord. La chef de la diplomatie européenne de Genève a mis en garde contre ceux qui répandent l'inquiétude. Enfin, l'Iran a parlé d'un discours ennuyeux et répétitif.
Quel geste, Serge Julie, un premier ministre israélien qui va à Washington uniquement pour s'adresser au Congrès et qui oublie le président.
Qui oublie volontairement. On peut dire que c'est la première fois depuis la création d'Israël que la politique américaine, qui était très consensuelle sur la question d'Israël, se trouve divisée. Je trouve que Netanyahou a mis en crise, sans doute, le soutien, l'establishment politique républicain-démocrate à Israël. Et c'est sans doute pas un service qu'il a rendu à son pays. Alors, il est en campagne électorale, paraît-il, ça autorise tout les cynismes. Ouais, donc, voilà. Mais l'autre chose, c'est évidemment la question de l'accord avec Téhéran. pour récupérer les conséquences absolument dramatiques de l'intervention américaine de 2003 en Irak, les États-Unis sont obligés de faire une alliance avec les chiites iraniens et la puissance chiite, en l'occurrence Téhéran. Voilà, c'est qui fait la guerre en Irak contre l'État islamique. Voilà, on est dans une situation, tout ça est quand même la tête à l'envers, et on pouvait penser que les conséquences de l'intervention américaine de 2003 seraient limitées, on en a pour 20 ou 30 ans, sans doute.
Alors il faut préciser, pour conclure cette première partie, Serge Julie, que dans votre dictionnaire, et c'est normal, il y a beaucoup de journalistes américains.
Il y en a, à commencer
par Joseph Pulitzer, par exemple.
Oui, mais Pulitzer, je voulais faire un... J'ai fait un Pulitzer et un peu Randolph Hearst à propos d'Orson Welles, à propos de Citizen Kane, qui était un moyen aussi d'en parler. Je voulais faire les créateurs de journaux. Donc, évidemment, il y en a beaucoup des créateurs de journaux aux États-Unis. Donc, je pense que Pulitzer a été quand même un personnage qui a créé un peu la presse moderne.
Alors, il faut lire votre notice Pulitzer, créateur du prix et de bien d'autres choses.
Prix de l'Université Columbia.
Aussi. De journalisme, évidemment. Mais il y a aussi des grands reporters de l'époque, notamment de l'époque du Vietnam.
Ben oui, non, mais il y en a.
Par exemple.
Sur le Vietnam, je parle de Seymour Hersh, mais Hersh n'a jamais été au Vietnam. C'est simplement une précision. C'est sans doute le plus grand journaliste dit d'investigation, qui est un solitaire absolu, qui n'est pas du tout dans le travail journalistique collectif.
Il y a Michael Hare.
Michael Hare, qui était, lui, au Vietnam, bien sûr, et qui est un formidable reporter. Vous avez raison, je réagissais sur... je pensais à Seymour Hersh. Ces deux figures totalement différentes. Pour nos auditeurs, Seymour Hersh, le massacre de My Lai au Vietnam.
Donc, massacre de Vietnam par les Américains.
Voilà, et qui est le tournant dans l'opinion américaine sur le Vietnam. C'est vraiment, il y a l'avant et l'après. Et Abu Ghraib, c'est lui. C'est lui qui révèle à la fois les photos, les maltraitances, les tortures qui sont pratiquées dans la prison d'Abu Ghraib par des soldats américains.
Et plus loin dans le temps, tout est en relatif, il y a aussi, vous parlez aussi de celui, le reporter qui a suivi les GIs en 44 sur les plages de débarquement.
Oui, bien sûr, là, il y en a deux, parce que ce qui est sur la plage de Maha Beach, qui est cette plage dont personne ne pouvait penser qu'elle serait aussi dramatique. S'il y a 1500 morts sur cette plage, il y a très nombreuses personnes. Il y a John Ford qui est au large. Il y a plusieurs cinéastes. Il y a Samuel Fuller. Il y a George Stevens. Il y a énormément de monde. Bon, mais il y a effectivement parmi les journalistes, il y a Hemingway qui est dans la septième vague du premier jour. Et il y a surtout Capa qui est lui dans la première vague du premier jour.
Et ce monsieur Ernie Pyle.
Et Ernie Pyle qui arrive le 7.
Et vous publiez publiez son reportage. Il faut le lire, vraiment très très précis.
Ouais, c'est peu connu, c'est moins connu. Il est très connu aux États-Unis. Hein, quand on serait aux États-Unis, Ernie Pyle, c'est sans doute le journaliste plus emblématique, en tout cas de correspondant de guerre de presse aux États-Unis. En France, il est peu connu et le récit qui faisait du débarquement, comme je voulais pas répéter la même chose.
D'une apparente simplicité, voilà, mais d'une grande
profondeur. Il débarque le 7, donc le lendemain, à Omaha Beach, sur cette plage, première vague du 7, il n'y a que des cadavres et des objets qui traînent par terre. La plage est vide. Elle a été prise par les troupes américaines, mais en fin de journée, voilà, il raconte ça, et je trouve ce récit exceptionnel.
Il est voulu publier, donc je le rappelle, cette notice. Serge Julie, on va se retrouver dans 3 minutes, après un point sur l'actualité de ces dernières heures, et on va continuer à rendre hommage notamment aux grands reporters. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Serge Julie nous accompagne ce matin, ancien directeur du quotidien Libération. Il publie un dictionnaire amoureux du journalisme chez Plon dans la prestigieuse collection Dictionnaire amoureux. Dans quelques minutes, il va être question de l'actualité africaine, bien sûr. Rendez-vous également avec vos messages. Mais sans tarder, Serge Julie, tournons-nous vers l'actualité française en quelques mots cette semaine, avec d'abord les lourdes pertes du groupe nucléaire Areva, près de 5 milliards d'euros. Patricia Lecomte.
Née en 2001, héritière de la COGEMA, Areva est aujourd'hui une multinationale de 45 000 salariés, dont près de 70% travaillent en France, même si le spécialiste français du nucléaire est présent dans de nombreux pays, sur pratiquement tous les continents. La force du groupe, maîtriser toutes les étapes de la production, de l'extraction et de l'enrichissement de l'uranium, en passant par la fabrication des réacteurs, jusqu'à la production d'électricité et le recyclage des combustibles. Aujourd'hui, la perte record de près de 5 milliards d'euros est le résultat d'une succession d'erreurs stratégiques. La construction des EPR, ces réacteurs de troisième génération, a pris d'énormes retards, avec pour certains le triplement du coût. Areva a raté le marché de deux centrales à Abu Dhabi, puis l'accident de Fukushima porte un coup d'arrêt brutal au marché mondial. Areva a des liens privilégiés avec l'Afrique, c'est son principal fournisseur d'uranium, d'où ses liens avec le Niger, puis plus récemment avec la Centrafrique et la Namibie, où se trouvaient des gisements prometteurs rachetés aux Canadiens Uramine, et qui se sont révélés un gouffre pour le géant du nucléaire français. Areva perd 1,5 milliard d'euros dans cette affaire, qui pèse lourdement dans ses comptes.
Restons en France, Serge Julie. Samedi dernier, Martin Bouygues, le patron du groupe de travaux publics, propriétaire de TF1, est mort. C'est du moins ce que disaient les médias. Explication de Laurence Théo.
Tout est parti d'une dépêche de l'agence France Presse publiée ce samedi vers 15h et immédiatement reprise par tous les grands médias français et par les réseaux sociaux. Dans sa dépêche, l'AFP citait le maire de Saint-Denis-sur-Sarton, une commune voisine de La Roche-Mabille dans l'Orne, où Martin Bouygues possède une résidence. Mais en réalité, le maire a expliqué qu'il avait bien donné l'information de la mort d'un monsieur Martin, seulement il ne s'agissait aucunement de l'industriel Martin Bouygues. Le maire Michel Julien s'est dit navré de cette erreur d'interprétation. Il insiste, le journaliste m'a parlé de cette mort et j'ai confirmé que monsieur Martin était décédé. De son côté, dans un communiqué, le groupe Bouygues déplore qu'une telle rumeur ait pu se propager, tandis que la directrice générale de l'information de TF1, Catherine Nel, affirme avoir eu Martin Bouygues au téléphone. Selon elle, il était très surpris par l'annonce de sa propre mort. Très embarrassé, selon ses termes, de cette terrible erreur, l'AFP s'est excusée sur les réseaux sociaux et a annoncé qu'une enquête était en cours au sein de sa rédaction pour identifier les dysfonctionnements qui ont rendu la publication d'une telle information possible.
Sept jours en France. Alors Serge Julie, j'ai choisi cet événement parce que vous étiez l'invité cette semaine, ça tombait très bien. Quel est votre regard sur cette malheureuse affaire ?
D'abord, c'est pas la première fois. Non. Malheureusement,
ça arrive à tout le monde,
j'allais
dire.
Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais il y a eu des précédents très célèbres. Nungesser et Colly sont jamais arrivés à New York quand ils ont traversé l'Atlantique avec leur avion. Ouais. Voilà, donc ils ne sont jamais arrivés. Ça n'a pas empêché des quotidiens de faire des éditions spéciales avec des interviews de Nungesser. Des interviews. Leurs déclarations face à la foule new-yorkaise, alors qu'ils étaient, ils avaient péri en mer. Donc, c'est arrivé... je cite un exemple, puisque l'invention du démenti date de la Fronde. Il y avait un poète, une sorte de chroniqueur de l'actualité, qui écrivait à la duchesse de Longueville et qui lui envoyait en vers les nouvelles de Paris. Et il avait annoncé la mort de quelqu'un. Et il a fait un démenti en disant « j'annonçais la mort de monsieur machin et en fait, il n'était point mort ». Bon, il y a eu des cas célèbres. Le Monde avait annoncé la mort de Monica Vitti, le Quotidien de Paris, celle de Marcel Dassault, qui l'était pas. Pourquoi ça prend une importance avec l'AFP ? Parce que l'AFP est considérée comme une instance de légitimation, de validation de l'information.
Et qu'il l'est.
Alors, je vais vous dire mon sentiment. Je crois pas du tout à cette histoire. Elle a eu lieu, naturellement.
Incontestablement,
mais
oui.
La version qui est donnée me paraît pas cohérente. Pourquoi ? Parce que l'AFP, il se trouve que Martin Bouygues, il dirige premier groupe de BTP. On peut joindre beaucoup de monde dans le BTP, hein, quand même, direction. On est l'AFP et on dit, voilà, j'ai une information comme quoi Martin Bouygues cédait, est-ce que je pourrais avoir avec quelqu'un à la direction du BTP, d'LCI, de TF1, du téléphone, la téléphonie Bouygues. Donc, et on n'a personne, et le seul personne qu'on a au téléphone, c'est un maire d'une petite bled.
On se trouve la résidence secondaire de
Martin
Bouygues.
Enfin, qui confond, et ça suffit. Donc je n'y crois pas. Je pense qu'on a fait une mauvaise manière, sans doute au président de l'AFP, qui, comme vous savez, est sans doute l'un des candidats pour la prise de la direction de France Télévisions. Et il y a quelqu'un qui a...
Ah, vous croyez
pas, ouais. Moi, je crois plutôt ça. Parce tellement même... c'est incroyable, la question, ce qui est mis en avant sur la vérification de cette information.
Connaissant la rigueur de l'AFP, ça paraît effectivement...
Oui, c'est impossible. Ouais. Et en plus, on connaît dans la presse toute règle, la règle de base, et c'est celle de l'AFP. Il en faut deux. Il faut au moins deux sources pour dire qu'on a vérifié.
Ouais, alors
donc
voilà,
je crois pas. Voilà.
Ouais, voilà qui ne va pas améliorer l'image du journalisme. Vous commencez votre dictionnaire, Serge Julie, avec quelques phrases bien senties. J'ai noté celle de Henri Béraud. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple à choisir parce qu'il a mal tourné.
Personnage discutable, mais qui a été un grand porteur et plein de qualités.
Alors voilà ce qu'il écrit. Le journalisme est un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce que l'on ne connaît pas et une moitié à taire ce que l'on sait.
Oui, il y a... Parce que j'ai voulu commencer par un bas de journalisme. Justement, je vous évoquais tout à l'heure le fait que je voulais parler un peu de tous ces problèmes qui traversent l'information, qui mettent en cause le pouvoir des médias. Et donc, j'ai préféré commencer par une sorte de florilège. Depuis l'apparition des journaux, il y a une contestation systématique qui ressemble beaucoup à celle qu'on connaît aujourd'hui, même si les médias ont changé, même s'ils ont pris beaucoup d'importance. Cette contestation est permanente. Et tous ces gens l'ont fait depuis l'époque élisabéthaine avec un talent fou. Donc tous les arguments, en fait, on les retrouve à travers ce florilège, puisque ça a été dit, que ce soit Bernard Shaw, que ce soit...
Et ça continue aujourd'hui, plus que jamais.
Et ça continue, absolument. Voilà. Donc, je voulais commencer par ça, pour dire, moi, je vais pas vous faire une histoire en noir et blanc, du style, les médias, c'est la catastrophe, c'est une horreur, etc. Non, ce n'est pas une horreur, mais oui, il y a des faces noires. Et moi, je crois que la liberté de la presse et quelque chose qui est le cœur atomique, c'est ça la pile de la démocratie. Donc quand c'est attaqué, on l'a vu avec Charlie Hebdo, tout le monde le sent que c'est bien la pile qui est en question et pas simplement les apparences, et que la presse, les médias, c'est pas tout blanc, mais voilà, ça garantit d'un certain nombre de mots MAUX, voilà, et je pense que c'est à ça que ça sert, et je pense qu'il faut protéger, défendre justement cette liberté d'expression qui est due à la concurrence entre les médias ou entre les journaux
et
entre les médias.
Alors,
et cette concurrence est très utile.
Évidemment, dans votre dictionnaire, Serge Julie, on rencontre Kessel, on rencontre Renaudot aussi, hein, Renaudot Albert Londres de.
Oui, pourquoi j'ai.
Pillé, en fait.
Oui, je les mets en question. Je les mets en question parce que Renaudot est effectivement a inventé la Gazette, le premier journal français.
Mais dites-vous, en commençant votre notice, sous la monarchie absolue.
Non seulement sous la monarchie absolue, mais le patron du journal, c'était le cardinal de Richelieu. Donc c'est faire passer Renaudot pour en gros le grand ancêtre de la presse française. C'est jamais que de la communication. Il était le communicant du cardinal de Richelieu, Louis XIII. Louis XIII, qui était l'un des écrivains de la Gazette, tout comme le cardinal Richelieu, qui écrivait des articles dans cette Gazette. Donc, c'est même chose, je dirais, alors c'est tout à fait différent pour Albert Londres, mais Albert Londres, c'est figure mythique. Alors, il y a deux soucis avec Albert Londres. Quand tous ceux qui ont été vérifiés, les reportages d'Albert Londres, il a pris beaucoup de liberté avec les faits. Voilà, ce qui est quand même en soi un peu problématique, c'est des défauts français. Il se trouve qu'il les incarne. Mais en plus, il a ajouté la collaboration au service secret. Alors, Moi, j'ai pas le sentiment que quand on appartient au service secret, on manifeste une indépendance absolue. Donc, c'est pas la meilleure voie, disons, pour l'indépendance de la presse. Donc voilà, je mets en cause ces deux figures tutélaires du journalisme français.
Et nous partons pour l'Afrique, Serge Julie, au Burkina Faso, dont on vous a beaucoup parlé lundi lors d'une journée spéciale. Arrêtons-nous ce matin sur le lancement de la campagne d'inscription sur les listes électorales. Premier pas, bien sûr, vers des élections transparentes. Reportage de notre correspondant Yahya Boudani.
Je déclare lancer ce jour même, ici à Kaya, l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national.
C'est le président de la transition, Michel Kafando, qui a lancé cette opération de révision exceptionnelle de la liste électorale. Plus de 3 millions de Burkinabés sont concernés par cette campagne d'enrôlement biométrique. Maître Barthélémy Kéré, président de la Commission électorale nationale indépendante.
L'enjeu de cette opération, c'est d'accroître de manière significative le taux d'inscription sur les listes électorales et par là même d'impacter sur le taux de participation aux élections devant mettre fin à la transition.
Selon le président Michel Kafando, cette opération de révision est la première matérialisation de la promesse faite par la transition d'engager le Burkina Faso dans la démocratie à travers des élections transparentes et crédibles.
C'est en votant qu'on évite de se voir imposer des dirigeants irresponsables. Nous devons réussir l'inscription sur les listes électorales. Acte premier du succès des élections à venir, elles-mêmes constituant, comme vous le savez, l'objectif prioritaire de la transition.
Déjà, les responsables de partis politiques ont entamé les campagnes de sensibilisation. Sarah Sérémé, présidente du Parti pour le développement et le changement.
Nos militants partout, les différents responsables des structures, commencent déjà à rentrer partout pour sensibiliser ceux qui ne s'étaient pas inscrits de le faire.
2500 opérateurs sillonneront tout le pays jusqu'au 18 mai prochain, date de clôture de l'opération.
Retenez aussi que le gouvernement burkinabé a autorisé la famille de Thomas Sankara à exhumer le corps présent dans la tombe de celui-ci pour vérifier s'il s'agit bien de celui du père de la Révolution. La famille, elle, demande une vraie enquête pour connaître la vérité sur la mort donc de Thomas Sankara. Burkina Faso, toujours avec un des reportages que nous vous avons proposé ces jours derniers. Puisque nous parlons journalisme cette semaine avec vous, Serge Julie, voici un reportage sur la télévision du pays, sur les journalistes de la télévision burkinabé, avec notre envoyé spécial Guillaume Thibault.
Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Le prompteur du présentateur est en panne depuis des mois, les caméras et magnétos fatigués. Le matériel a été en partie détruit au moment de la révolution. Mais peu importe, le journal débute à 20h précises. Jérémy Siekoulibaly est le nouveau rédacteur en chef de la RTB.
Lorsqu'on réalise le journal à la télévision ici, c'est un miracle.
En novembre dernier, lorsque la transition s'est mise en place, journalistes et techniciens de la RTB ont été les premiers à manifester pour dénoncer le musellement du pouvoir politique. 4 mois après, cette indépendance n'est pas encore gagnée, estime Simon Gongo, journaliste et présentateur de l'émission de débat Controverse.
La liberté s'acquiert. On ne va pas dire qu'elle est concrète. Non, c'est à nous de l'entretenir pour pouvoir arriver à l'indépendance réelle qu'on recherche.
Principal problème pour les dirigeants de la télé nationale, les finances. À tel point que certains reportages diffusés dans les journaux sont toujours payants. Jérémy Siekoulibaly.
Il faut bien que quelqu'un paye, puisque la télévision n'a pas une cagnotte ou n'a pas de l'argent disponible pour financer cela. Si on reste dans une telle situation, je pense qu'un jour, la télévision burkinabé, ça va devenir peut-être comme en Grèce. On va fermer et puis nous tous, on va se chercher ici.
Le 20h se termine sur un sans faute. En régie, un technicien s'exclame, le miracle a encore eu lieu.
Réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un bonjour à quelques auditeurs africains, comme chaque semaine. Bonjour à Siradio Baldé en Guinée, un fidèle auditeur de cette émission et d'idées aussi. Bonjour à Aboukari N'Djamena au Tchad. Un salut à Epiphané, à Kamsi à Lomé, à Jacques Malal à Nouakchott et à Alpha à Conakry.
7 jours en Afrique.
Vous écoutez RFI et vous avez raison, mille fois raison. Nous continuons notre émission avec Serge Julie, auteur d'un dictionnaire amoureux du journalisme absolument passionnant, où se trouve, et je trouve que ce n'est que justice, Jean Hatzfeld. Que vous avez bien connu, puisqu'il était journaliste à Libération.
Oui, alors c'est pas uniquement pour cette raison.
Non, évidemment, c'est pour son œuvre.
Je le connais bien.
Sur le Rwanda.
Je trouve qu'il a, il avait beaucoup de talent, beaucoup d'imagination, y compris dans le, non pas dans la fiction, mais dans le, l'imagination des angles journalistiques. C'est un journaliste d'angle qui cherchait toujours, était obsédé par les angles, que ce soit dans le journalisme sportif, dans lequel il a, il a débuté à Libération, et après il est devenu grand reporter, et en particulier, il a couvert une partie de Sarajevo, où il a perdu une jambe. Et il a été relayé pour Libération par Didier François, qui a été pris en otage de manière plus récente. Je l'ai mis pour le Rwanda, parce que je trouve qu'il a, de manière exceptionnelle, il a rendu compte, à la fois de manière, je dirais, il a saisi cette langue comme étant un territoire, le français parlé au Rwanda, qui est un français spécial, très particulier, très beau, qui a une sorte de poésie naturelle, qui est un rapprochement de mots que nous ne faisons pas en français, dans l'Hexagone, en tout cas.
On le constate chaque jour,
voilà, et qui est quand même toujours des choses assez magiques. Alors, il a fait... d'une certaine manière, il est devenu le greffier des survivants.
Du génocide. Alors, il faut rappeler, Serge Julie, qu'il a fait un livre sur les bourreaux, un livre sur les victimes.
Oui, voilà, il a fait trois livres. Enfin, il en a fait plusieurs. Mm-hmm. Mais il a fait un quatrième, d'ailleurs, qui était un peu transversal.
C'est ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été le greffier des survivants. C'était à un moment donné où tous les débats tournaient autour du Rwanda, mais sur les responsabilités, surtout vu de France et de Belgique.
Grand débat.
C'était des grands débats sur les responsabilités. Lui s'est intéressé uniquement aux survivants et aux récits des survivants, qui sont des récits difficiles, puisque c'est plutôt la difficulté de parler, même de formuler les choses, qui est chez tous les survivants, dans tous les génocides, ça se passe comme ça. Il y a surtout un grand silence qui s'abat, et un silence, y compris des reporters, des journalistes, puisqu'ils sont plus là pour écouter ce murmure qui est celui des survivants. On l'entend grâce à lui, donc c'est un témoin très actif, voilà, qui raconte l'histoire d'une bourgade. Alors en même temps, il y a une idée évidemment littéraire, mais en l'occurrence c'est de la littérature vraie. C'est pour ça que c'est évidemment dans ce dictionnaire. Mais quand Faulkner prend un village dans le sud des États-Unis, Niamata, c'est une bourgade qui est à 50 km de Kigali, tous les personnages sont devenus, tous les personnages, une 25, 30 de ces personnages sont devenus à la fois des locuteurs, le nourrissent, leur racontent des récits, et finalement il les fait tous, il s'est mis à faire parler ces survivants. Je trouve ça formidable.
Je recommande évidemment tous ces livres qui sont publiés aux éditions
du Seuil. Oui,
évidemment.
Une semaine d'actualité.
Nous partons pour le Mali maintenant, Serge Julie, avec un accord de paix pour mettre fin à la crise que connaît le nord du pays, même si la coordination des mouvements de l'Azawad a préféré attendre avant de le ratifier. Correspondance de David Bachet, lundi.
Parce qu'ils sont fatigués d'une situation de conflit qui a trop duré, les habitants rencontrés dans la capitale malienne se disent satisfaits. Selon eux, il fallait accepter cette proposition d'accord de paix pour aller de l'avant.
Moi, à mon avis, le gouvernement a bien fait, puisque ce problème a trop perduré. Il y a un blocage au niveau de l'économie et au niveau de la sécurité. Il faut régler ça. Bon, d'autant plus que le gouvernement a fait un effort. Je pense qu'au niveau des rebelles, maintenant, eux aussi, ils doivent faire un effort.
Oui, il fallait bien les signer. C'est juste pour sortir de la crise. Et si cette signature peut nous permettre de sortir de la crise, tant mieux.
Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la paix. Si le texte, le contenu, ça va avec la paix, ça nous arrange, quoi.
À Kidal, fief des groupes rebelles, on réagit tout autrement. Le texte proposé par la médiation consacre l'unité du Mali et la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. Pas question de fédéralisme ni d'autonomie. Ce dimanche, plusieurs centaines de manifestants ont donc à nouveau défilé pour exprimer leur hostilité à un texte qui, selon des témoignages recueillis au téléphone, ne tient pas compte de leurs aspirations. Les manifestants ont demandé au groupe rebelle de ne pas accepter cette proposition d'accord.
L'actualité africaine, c'est aussi en Côte d'Ivoire le procès de Simone Gbagbo et de dizaines de partisans ou sympathisants de l'ancien régime. On vous en parle évidemment dans nos journaux. Suite et fin d'une semaine d'actualité en Afrique. Il s'appelle Jean-Louis Borloo. Il a quitté la vie politique française. Et figurez-vous qu'il vient de créer une fondation qui s'appelle Énergie pour l'Afrique. Son objectif est électrifier le continent d'ici 2025. Amélie Tulé.
Pour Jean-Louis Borloo, électrifier le continent, c'est investir pour l'avenir de l'Afrique, mais aussi pour celui de l'Europe.
Les Américains, en 1947, ils ont fait le plan Marshall pour éviter que les bolcheviks arrivent à Paris et à Londres, et parce que c'était leur première source d'exportation. Pour les mêmes raisons, géopolitiques, de danger par ailleurs, de risque d'immigration et passer à la croissance, il faut que nous financions un plan Lumière.
D'ici à 2025, il faut 200 milliards d'euros. L'ancien ministre français propose donc de fédérer les fonds promis ces dernières années, par exemple le Fonds vert de Copenhague ou encore l'initiative américaine Power for Africa, et de les mettre ensuite à disposition d'une agence africaine. Elle décidera de financer tel ou tel projet sans condition de démocratie ou de respect des droits de l'homme. Alain Mamoumani est le secrétaire général de la Fondation Énergie pour l'Afrique.
Chaque projet sera soumis indépendamment du pays dans lequel il est. Ça peut représenter plusieurs pays ou un seul ou même une petite commune. Et ce sera le président de l'agence qui va regrouper tous ces projets et qui va les financer avec des capacités financières qui sont inédites dans le continent africain.
Jean-Louis Borloo espère voir cette agence sur pied avant la fin du mois de juin pour que le travail commence avant la conférence de Paris sur le climat en décembre.
De la reconversion des hommes politiques français, Serge Julie.
Oui, celle-là est très belle. Je ne sais pas si c'est une forme de reconversion, mais en tout cas, il s'est mobilisé sur cette affaire. Il a un enthousiasme formidable. Je trouve que c'est un très bon projet.
Et le défi est important aussi.
Le défi est très important. Et c'est bien que des hommes comme lui se lancent dans ce genre de choses. Et voilà, je trouve ça formidable. Et son enthousiasme, ça tranche avec la parole politique qu'on entend tous les jours, mais voilà, je dois avouer, même surpris, mais je trouvais ça, il est transformé par cette aventure, et heureusement qu'il y a des gens qui s'engagent comme lui, y compris parmi les politiques français.
Et là, on va terminer avec les journalistes, comme on a commencé, comme on a cessé de le faire durant l'émission. D'ailleurs, Serge Julie, j'en profite pour rendre hommage à tous nos confrères disparus dans l'exercice de leur métier, à commencer par les nôtres. Je rappelle Claude Verlon, Ghislaine Dupont, Jean Hélène et Joanne Sutton. On est avec eux toujours, on se souvient d'eux plus que jamais. Et vous dites dans votre dictionnaire, Serge Julie, que vous regrettez de ne pas avoir parlé des journalistes d'Asie ou des journalistes d'Afrique.
Oui, alors c'est évidemment, d'abord, il y a une limite, donc j'ai fait déjà 900 pages. Oui. Je voulais effectivement faire des portraits, donc ça m'entraînait. Faire un deuxième tome, c'était pas possible, uniquement pour faire des portraits.
Ça sera le prochain.
Ensuite, il y a des pays dont la langue finalement est un obstacle, donc ça aurait pris plus de temps.
Est-ce que certains, vous l'avez entendu avec le reportage sur la télévision burkinabé, les journalistes africains exercent leur métier tous les jours dans la difficulté.
Mais dans d'autres pays, je pense par exemple au Pakistan, aux Philippines, où il y a eu des attentats absolument terribles contre des journaux. Donc pas comme Charlie Hebdo, mais en tout cas avec des voitures piégées devant des journaux, faisant très nombreuses victimes. Donc Mais même Anna Politkovskaya, je voulais la faire, et puis finalement, il fallait finir le livre, voilà, ça aurait rajouté, il fallait que j'enlève autre chose, donc voilà, à un moment donné, il faut s'arrêter.
Il y aura peut-être un deuxième dictionnaire, amoureux des journalistes.
Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a d'autres journalistes dont j'aurais aimé, évidemment, faire le portrait.
Merci Serge Julie, c'est un dictionnaire amoureux du journalisme que vous nous proposez chez Plomb, je le recommande vivement, et puisque nous avons parlé de la presse, je vous recommande aussi l'excellent roman de Stéphanie Meynier qui travaille pour le Canard Enchaîné, il s'intitule Tueuse mais pas trop chez Fayard, il est publié chez Fayard, donc quand un club de femmes décide d'éliminer ce qu'elles n'aiment pas, c'est très drôle, donc je le recommande aussi. Merci Serge Julie d'être venu nous voir, une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky, une émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Notre invitée sera la philosophe Corinne Pelluchon, spécialiste d'éthique. Elle élabore une philosophie politique qui prend en compte l'environnement. Elle vient d'écrire La liberté ou le pouvoir de créer, un livre publié au Seuil, demain dimanche 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.